Alors, elle dit, on vous a vu ce matin quand vous êtes allé faire votre toilette, et mon frère vient vous entretenir un peu. Effectivement, alors le frère est arrivé derrière, il s'est présenté, il s'appelait Roger Bazerque. Alors, ils nous ont dit, voilà, vous êtes à Fréchédor. Mon père est le maire de Fréchédor. Et bon, ben, il ne faut pas rester ici, parce que ici, vous êtes quand même beaucoup trop près de la route, vous ne pourriez faire aucun mouvement, rien du tout. Alors, le frère, il a dit d'ailleurs, écoutez-moi, je vais vous transférer à la nuit. Je vais vous transférer dans une grange qui est beaucoup plus haut dans la montagne. Et là, vous allez attendre quelques jours. Et je vais prendre contact avec quelqu'un qui vous fera passer en Espagne. Vous imaginez, c'est fantastique quand on se trouve comme ça, que les gens qui ne demandent rien, on se trouve en faude chez eux, on est chez eux, et c'est des gars qui se mettent en quatre. Et alors, effectivement, à midi, les jeunes filles, enfin oui, à midi, les jeunes filles nous ont apporté à manger. Et puis, on a passé l'après-midi dans cette grange, elle venait, où c'était l'une, où c'était l'autre, où le jeune homme, René, qui venait, et on bavardait, on a parlé de tout, évidemment, de la situation, de notre situation, ce qu'on faisait à Bordeaux, ainsi de suite. Et à la tombée de nuit, le soir, il est venu nous chercher, René Bazerque, mais au lieu de partir dans une grange, comme il nous l'avait dit, il nous a amenés chez lui. Et nous avons mangé en table d'hôte avec ses parents. Nous avons été reçus magnifiquement. Et nous étions pourtant cinq pouilleux, parce que nous étions sales. Il faut avouer que nous étions très sales. Et nous avons mangé, nous avons fait chez eux un excellent repas. Et puis, pouvoir fumer, tout ça. Enfin, on se sentait bien, vous voyez, très bien. Et le soir, dès que ça a été terminé, il nous a dit, bon, ben maintenant, vous allez me suivre. Il a pris une grande lampe électrique et puis il nous a emmenés effectivement dans une grange qui était perdue dans la montagne, au milieu des arbres, tout ça. Alors, il dit, là, vous risquez rien. Mais surtout, dans la journée, quand même, évitez de vous faire voir par quiconque. Et puis nous sommes restés là. Et alors nous avions la visite le midi, le soir, le matin. On nous apportait le café, on nous apportait à manger à midi, on nous apportait à manger le soir. C'était tantôt une des filles, tantôt René Bazerque, qui nous apportait à manger. Il dit, voyez, j'ai fait prendre contact par quelqu'un dans un village de Germes. Ah, ça s'appelait Germes, nous ne connaissions pas. Et je ne crois même pas qu'il apparaisse sur la carte. Et dès que j'aurai réponse, je vous mettrai sur la route et vous pourrez filer. Et nous sommes restés 3 jours. 3 jours chez lui. Et bien sûr, disons que ça s'était su, le village entier de Fréchédor connaissait notre aventure. Et nous avions un tas de gens qui venaient nous voir, qui venaient nous apporter des cigarettes. Enfin, pas des cigarettes plutôt, c'était du tabac, vous voyez, du tabac. Nous apportait du tabac, nous apportait un petit verre de miel, en fait de l'agneau, nous apportait du vin. C'était quelque chose de fantastique de sentir ces gens. Du lait, ah, du lait, c'est vrai, nous apportait du lait aussi. De sentir tous ces gens qui étaient pour nous, qui, je sais pas, sentir la chaleur humaine, c'est quelque chose de formidable. Et puis, enfin, le troisième jour est arrivé, et là, c'était 2 jours. Alors, il nous avait expliqué, il a dit, voilà, je vais vous emmener jusqu'à la zone interdite. Alors, là, vous allez avoir du mal, parce que je vais vous faire traverser la zone. Mais alors, de l'autre côté, vous allez vous heurter, il y a des patrouilles continuelles qui circulent dans la montagne, des patrouilles allemandes. Alors, le meilleur moment pour traverser, il faut que vous repériez une patrouille. Et quand vous l'avez repérée, vous vous cachez et vous attendez midi. et vous verrez, à midi, il y a toujours un décalage. C'est-à-dire que les patrouilles allemandes descendent à Arau, et les patrouilles qui montent remontent environ une demi-heure après. Alors il vous faudra, durant ce moment, durant cette demi-heure de battement, battre tous les records de vitesse pour franchir tout le point où les patrouilles circulent, c'est-à-dire les patrouilles autour de Arau. Arau, c'est une ville assez importante de cette vallée, où il y avait donc une garnison allemande. Alors, effectivement, il a pris ses jumelles, tout ça, une carte, et puis il nous a fait traverser la zone interdite, mais sans qu'on voit personne, il n'y avait rien. Il nous a dit, maintenant, vous êtes en zone interdite. Voilà, c'est fini, vous êtes en zone interdite. Donc, à partir de là, maintenant, si vous êtes pris, il vous faut un laissez-passer. Hein. Alors, on a dit, bon, mais non, merci. Alors, il nous a dit, voilà, vous allez partir. Il nous avait fait un petit papier, voilà, vous allez partir en direction du col de Peyresourde. Vous prenez donc la vallée de... Oh, je ne me souviens plus. La vallée de Louron. Oui, la vallée de Louron. Et vous allez monter en direction du col de Peyresourde. Et quand vous serez au col de Peyresourde, vous verrez, vous allez traverser ensuite la route nationale. Et quand vous aurez traversé la route nationale, de l'autre côté, vous avez un petit village qui s'appelle Germes. De toute façon, il dit, vous trouverez toujours des gens. Vous aurez qu'à leur dire que vous allez à Germes et on vous indiquera. N'ayez aucune crainte des gens que vous trouverez en cours de route. Et alors, nous sommes partis, et évidemment, il y avait ce problème de... Alors, c'était au petit matin, ça, et alors, on a pu aller jusqu'à cette... il y avait une forêt, vous voyez, c'est dans cette forêt, enfin, cette forêt, mais elle était immense, je crois, c'est-à-dire, on ne peut pas dire une forêt, comme on voit ici, une forêt, de... non, c'était une forêt immense, et... On y avait accédé par des fourrés, par des petits ravins, on est arrivé jusque-là. Et il nous avait dit, c'est dans cette forêt que les patrouilles circulent. Et alors, on a marché en tendant l'oreille aux aguets à tout moment. On était là, on marchait très, très, très doucement et sans bruit, vous voyez. Et puis, on avait traversé plusieurs petits chemins dans la montagne. Et subitement, écoute, on a entendu des voix. Effectivement, on a entendu des voix. Alors, on était cachés dans les fourrés, et puis on a attendu. Alors, on entendait, c'était des voix allemandes, et effectivement, on les a vues, mais on ne les a pas vues. On ne les a pas vues du tout. C'était des voix allemandes, et on a attendu, et puis on les a entendues passer une fois, et puis ils sont repassés, et puis, ou c'était peut-être d'autres, je ne sais pas. Et puis enfin, à un certain moment, le moment de midi est arrivé, on les a entendus encore qui descendaient dans un autre chemin, et puis subitement, le calme, il n'y a plus rien. Alors là, ça a été la débandade, hein. On est partis comme des fous, on savait qu'on n'avait qu'une demi-heure avant que les patrouilles remontent, on est partis comme des fous. Dans la montagne, on était essoufflés, on courait, on trébuchait, c'était quelque chose d'affreux. Hein. Et surtout qu'on avait une frousse, et à un certain moment, nous sommes arrivés à un découvert, et effectivement, on voyait la ville d'Arau en bas, dans la vallée. Mais alors, il faisait un grand soleil, là, on avait une frousse, c'était lamentable. Et puis, sur le coup, enfin, je sais pas, on a dû courir comme ça environ jusqu'à 2h de l'après-midi, en courant, trébuchant, en s'essoufflant, en se reposant, en repartant, ainsi de suite. Là, on savait qu'on avait pratiquement, on était sorti de la zone des patrouilles, vous voyez. Et là, on a continué à marcher tout l'après-midi. On était déjà très très loin de la route nationale. La route nationale, on la voyait dans la vallée en bas, mais plus on allait et plus on montait, voyez-vous. Et enfin, nous sommes arrivés dans l'après-midi, dans un espèce de pré où il y avait une bergère, là, une dame qui gardait des brebis. Elle avait le goitre. Elle avait le goitre et elle parlait très très mal. Et alors, on lui a demandé pour aller à Germes, si nous étions dans la bonne direction. Alors, je sais pas, ça a engagé une polémique, ça, après, plus tard. A-t-elle voulu nous faire tromper? Est-ce nous qui nous sommes trompés? Ça n'avait pas l'air de correspondre à la direction que nous avions d'après le plan, mais elle nous a dit qu'il fallait passer par là, mais qu'il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était de grimper une montagne qui était là, mais c'était du travail d'alpiniste qu'il fallait faire, ou presque. C'était très haut, on n'en voyait pas le sommet. Et puis c'était abrupt, quoi. Il y avait rien, pas de chemin pour y monter, rien du tout. Alors elle a dit qu'il fallait passer par là et que c'était de l'autre côté. Que vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est nous qui avons mal compris. Puis il y a eu plusieurs choses d'ailleurs. Enfin, bon, puis on n'avait pas de plan, les cartes Michelin ne faisaient pas apparaître, c'est fait pas apparaître la campagne, vous voyez, à part les routes qui sont ici dans les cartes Michelin, mais rien n'apparaissait. Et alors, évidemment, nous sommes partis, il était environ 3h30, 4h, et on a commencé à grimper. Après, c'était la pointe des doigts et la pointe des pieds, et puis on grimpait, il n'y avait plus rien à faire. Il y avait, par moments, je me demande comment on ne s'est pas cassé les reins, mille fois. Alors, on a grimpé. Et il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'est qu'on a commencé, au bout d'un certain temps, à attraper sommeil. Mais sommeil. On pouvait faire quelques pas et on tombait. On avait sommeil et mal de tête. Et bon, j'ai su ça après ce que c'était. Nous avions attrapé le mal des montagnes. Nous étions en altitude, très haut d'ailleurs déjà. Et avec l'effort, nous avions attrapé le mal des montagnes. Alors, par moments, on se couchait sur des espèces de petites plateformes. On essayait de dormir un moment, mais c'est assez curieux parce que on a sommeil, mais on n'arrive pas à dormir, on est excité en même temps, vous voyez. Et alors, on a continué à monter, et puis à un certain moment, c'était la nuit, quoi, pratiquement la nuit, on a dit, bon, ben, il faut se coucher. Mais Dieu sait qu'il faisait froid. Alors, on s'était couché, il y avait une espèce de banc de pierre, là, sur une corniche, et on s'est couché. Eh bien, je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous amuser. On couchait les uns sur les autres. C'est-à-dire que, pour se réchauffer, il y en avait deux qui se mettaient par terre. Deux qui se mettaient dessus, et le cinquième couchait sur les deux autres. On arrivait à se dire, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on changeait tout le monde, et les autres passaient dessous, les autres, ainsi de suite, de façon que tout le monde est un peu chaud. On a passé une nuit infernale, mais vraiment glaciale, infernale. Et rien, on n'avait rien, on ne pouvait pas faire de feu, ni rien pour se chauffer, rien du tout. L'altitude, qu'est-ce que ça pouvait donner? Ça pouvait donner environ une altitude, je crois, d'environ 16 à 1800 mètres, quoi, vous voyez. Bon. Et enfin, le jour est arrivé, nous étions dans un état lamentable. Et nous sommes partis, on avait extrêmement soif. On avait mangé le soir, et on n'avait rien pour boire. Et si vous voulez, ça faisait des moments de terrifier. Disons pas que nous étions arrivés au sommet, là, ça continuait à monter encore énormément, mais enfin ça montait déjà en pente douce. Et il y avait le moyen. On le voyait, ça s'est dessiné, on voyait de contourner la montagne. Au lieu de monter jusqu'au sommet pour redescendre de l'autre côté, on a essayé de contourner la montagne par la droite. Parce qu'il faut vous avouer une chose, nous étions complètement perdus, paumés, on ne savait plus du tout où nous étions. Mais rien du tout, et c'est là que les polémiques sont engagées en disant « Elle nous a fait tromper volontairement, ou est-ce qu'elle nous envoie, peut-être serait chez les Allemands, on ne savait même pas de quel côté on se trouvait. » Alors, vous savez, personne d'entre nous n'avait tellement un sens de l'orientation. Si on l'a acquis, je pense, chacun de nous l'a acquis plus tard, à cette époque-là, nous n'avions aucun sens d'orientation. Alors, On était là, comme des hommes en peine, sans savoir exactement où nous étions et ni où nous allions, si on allait au sud, si on allait au nord, on n'allait rien du tout. Et puis, c'est en contournant justement cette espèce de demi-plateau où nous étions, que nous sommes tombés sur des chèvres. Il y avait des chèvres qui étaient là, mais alors des chèvres, vous savez, ça devait se faire, je ne sais pas si ça se fait encore, où on monte les chèvres dans les alpages, et puis elles y restent tout l'été, mais sans gardien, il n'y a personne. Elles étaient là, ces chèvres. Alors elles sont venues nous faire la fête, venir autour de nous, essayer de... elles voulaient nous manger des boutons. Des boutons de veste, elles voulaient de toute façon manger des boutons. Je ne sais pas si elles cherchaient du sel ou quelque chose, mais alors elles léchaient les mains, vous voyez. Et puis, à mesure qu'on marchait, alors elles nous suivaient. Je ne sais même pas si elles nous suivaient. J'avais presque l'impression, enfin on a eu l'impression qu'elles nous attiraient au contraire. Évidemment, elles sont beaucoup plus agiles que nous et elles marchaient très vite. Et nous, j'étais au milieu des pierrailles. Alors, on les suivait mal. Mais alors, elles s'arrêtaient, elles nous attendaient, puis elles repartaient. On avait essayé de les traire. Mais alors, croyez une chose, aucun de nous n'avait la... ne savait comment faire avec des tétines de chèvre. On a essayé pourtant. Peut-être bien qu'elles n'avaient pas de lait. Et puis, on les a suivies. Alors, on a marché comme ça, peut-être pendant 2 heures. 2 heures dans la matinée. Et puis, subitement, Robert s'est mis à hurler, « J'entends de l'eau !» Il n'y a que lui qui l'a entendu. Mais enfin, il a peut-être l'oreille mieux que nous, et il est parti en courant, mais en redescendant, vous voyez, sur une autre face de la montagne où nous étions. Et il est parti en courant, et il dit « J'entends de l'eau, j'entends de l'eau !» Et alors, on l'a suivi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on le suive, on avait tellement soif. Et on a descendu. Puis il n'entendait plus d'eau. Et puis, on m'a dit de bien avoir de l'eau, parce que les chèvres, il fallait bien qu'elles boivent, quelque part. Enfin, où et quand, je ne sais pas. Et alors, on se trouvait là, on était à flanc de montagne, et dans le fond, tout à fait dans la vallée en bas, on a aperçu des maisons. Un pan de montagne qui était devant nous, on voyait qu'il y avait des maisons, et ça laissait supposer qu'il y avait un village qui était caché derrière le pan de montagne. Alors on a dit, bon, ben, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est descendre. On verra bien où est-ce qu'on est, on demandera, ainsi de suite. Alors on a descendu, ça nous a pris peut-être encore bien 2 heures, 2 heures et demie pour descendre. Et puis nous sommes arrivés près de ce village, effectivement c'était un petit village, et on s'est avancé, et là, c'est comme toujours, c'est toujours des gamins. Il y avait des gamins qui s'amusaient, on a demandé s'il y avait des Allemands. Et alors le gamin, au sens démonté, il dit, oh, ben, il y en a quelques fois, oui. Mais vous voulez voir ma mère? Alors on dit, ben oui, ben, alors il dit, bon, vous êtes qu'à nous attendre là, mais restez pas là. Quel âge il avait, le gamin, je sais pas, il a 10-12 ans, mais oui, très déluré. Alors, il nous a fait mettre dans la cour de l'école. Dans la cour de l'école, il nous a dit, attendez, ma mère, elle viendra. Et alors, effectivement, au bout d'un moment, il y a une dame, une infirmière, là, qui est arrivée. Là. On devait avoir l'air si désemparé qu'elle a compris tout de suite. Alors, elle a dit, ben, écoutez, il ne faut pas rester là. Il y a une remise dans l'école, dans la cour de l'école. Vous allez rentrer, surtout ne bougez pas, je vais vous apporter du lait. Et alors, là, toute la journée, ça a été le défilé, parce que c'est pareil, comme à Fréchet-d'Or, dans ce village, ça s'est su tout de suite, et toute la journée, ça a été un défilé de gens qui nous ont apporté du lait, du pain, ainsi de suite, on nous a apporté à longueur de temps, à manger. Alors les uns après les autres, vous voyez, ça ne pouvait pas se remarquer, mais alors il y avait des bertes de lait, vous voyez, les bidons de lait, on nous apportait des pleins bidons de lait, on buvait du lait, que c'est bon du lait quand on a soif et quand on a faim. Et puis, on attendait, mais on attendait quoi? On ne savait pas. Alors, dans le milieu de l'après-midi, il y a quand même un homme qui est arrivé. Alors il a dit, bon, bah, écoutez, on lui a dit, où c'est qu'on est? Alors il dit, ben vous êtes à à Portet de Luchon. Alors croyez-moi que Portet de Luchon, c'était un inconnu, pour nous, c'était rien, qu'est-ce que c'était, où c'est, quel côté on était. Alors il dit, vous êtes pas loin pas très loin de Bannière de Luchon, qui est une importante garnison allemande, et il y a toujours des va-et-vient ici entre Bannière de Luchon, qui est la garnison, et le col de Peyresourde, où il y a un poste allemand qui surveille toutes les vallées. Alors, il ne faut pas bouger, parce qu'il passe à longueur de temps, il passe ici, c'est la route. Vous allez rester tranquillement ici, et ce soir, je vous ferai un petit topo pour partir, pour pouvoir rejoindre Germes. Mais il dit, vous aurez le col à franchir. Vous avez le col de Peyresourde à franchir parce que vous êtes sur l'autre côté du col. Théoriquement, d'où nous étions, nous arrivions, vous voyez, dans la montagne, là, on avait complètement perdu le nord, c'est le cas de le dire, et on avait franchi plus haut que le col de Peyresourde, on avait franchi, nous étions retombés dans l'autre vallée, à gauche, d'où nous devions aller. Bon, alors on a attendu toute la journée, et puis le soir, encore on nous a donné un grand morceau de lard, énorme, de lard blanc, hein, pas de viande, avec du lard seulement, et puis du pain, et puis le bonhomme nous a dit, voilà, vous allez monter, dès que la tombée de la nuit, hein, à la tombée de la nuit, vous allez monter dans telle direction. Alors il nous a montré, comme ça se voyait à vue d'œil, et vous allez rencontrer une cabane de berger. Alors, dans cette cabane de berger, vous irez, et lui, de là-haut, pourra mieux vous montrer par où vous pourrez rejoindre sur Germes. Alors, quand l'heure est venue, nous sommes partis, nous avons remercié tout le monde, bien sûr, et quand l'heure est venue, et, on est parti, et il nous a fallu environ une heure et demie, à peu près, pour tomber sur la cabane de berger qui nous avait indiqué. Et là, il y avait effectivement un très vieux berger. Alors, on lui a expliqué le cas. Seulement, malheureusement, il ne parlait qu'un patois. Alors, il y avait quelques mots de français qui se passaient au milieu, mais il parlait que le patois. Enfin, nous avons compris quand même que il fallait traverser la route nationale plus haut, passer à gauche du col, qui avait une forêt de sapins, et quand nous aurions traversé le col, enfin vous voyez, il y a le col quoi, qui fait un V, et puis il y avait le poste allemand qui était là, il nous avait fait comprendre qu'il y avait un poste allemand, la forêt tapissait, si vous voulez, le côté gauche du col. Alors c'était dans cette forêt, il fallait passer au-dessus du col, et donc au-dessus du poste allemand, redescendre de l'autre côté du col, et là, à la fin de la forêt de sapins, descendre. Voilà. Donc moi, ça c'était en moitié français, et même pas un quart de français, et trois quarts de patois. Alors, nous sommes partis, à un certain moment, effectivement, nous avons rencontré la route nationale qui montait au col, on a attendu un moment, c'était calme, on a pu traverser, reprendre les forêts de l'autre côté, et puis partir en direction de cette forêt. Alors là, on a marché, bonne partie de la nuit, effectivement, à un certain moment, on a vu que la forêt redescendait, c'est-à-dire que nous avions franchi le col sans que les Allemands aient pu nous voir ou nous entendre. Alors, on a continué à descendre, à ce moment-là, on descendait de l'autre côté, donc on espérait descendre sur Germes, et puis nous sommes descendus, et puis, de nouveau, on s'est perdu, il n'y a rien à faire, on s'est perdu, c'est petit passé, je ne sais pas, il était très tard, on était fatigué, crevé, il y avait une espèce de petit ruisseau qu'on a traversé, et puis on a retrouvé une route, et puis de l'autre côté de la route, il y avait une espèce de grange encore, des petites granges comme on avait, alors on a retourné dans cette grange, et puis on s'est couché. C'était une roche, mais là, il n'y avait pas de foin, là. Elle n'était pas occupée, il y avait seulement de la terre battue, parce qu'il y avait quelques brindilles de foin par terre, mais enfin, on s'est surtout couché par terre. Et là, je me souviens, je me suis réveillé le premier, faisait déjà jour. Et j'ai tourné un petit peu dans la machine, et puis on ne trouvait rien, il n'y avait rien. Alors, il y avait une chose que j'ai quand même trouvée, parce qu'il faut que je vous dise, les autres étaient comme moi, mais enfin, en ce qui me concerne, moi, je me vois surtout. Mon pantalon, il était en frange depuis le genou, hein, depuis les genoux. C'était complètement délabré, il n'y a plus que des franges qui tombaient. Quant à mes chaussures à semelles de bois, bon, j'ai plus de semelles. Alors c'était mes pieds qui portaient par terre. Et là, dans un coin, j'ai trouvé une vieille piédonne, une paire d'espadrilles. Une paire d'espadrilles qui était bien amochée, mais enfin qui était quand même en meilleur état que mes chaussures. Alors j'ai pu faire un échange standard, c'est-à-dire prendre les vieilles espadrilles qui étaient peut-être un peu trop grandes. Mais enfin, puis attacher des ficelles, ça me tenait quand même mieux aux pieds. Et puis je suis retourné, j'ai retourné voir les autres, je leur dis, bon, ben, il faudrait se réveiller. Alors il y en a qu'un qui a répondu à mon appel, c'est Gilbert Sébastien. Les autres, ça dormait à point fermé, personne ne voulait bouger. Alors, on est parti, on est sorti de la grange, et puis, alors très timidement, très timidement, en se cachant de partout, comme il faisait jour, on essayait de voir où on pouvait se trouver. Et il n'y avait aucun point de repère, rien du tout. Faut vous dire que dans la nuit, on avait épuisé et le lard et le pain. Nous n'avions plus rien. Ça commençait à tirailler le matin. L'estomac commençait à tirailler. On n'avait plus rien à manger. Et alors, d'où nous étions, il y avait une espèce de ravine qui partait en pente douce de l'autre côté de la route. Et à quelques 200 mètres de là, on a vu qu'il y avait un refuge de skieurs. Et est-ce Gilbert, moi j'en sais rien, enfin, peu importe, l'un ou deux a dit, ben, là-dedans, on va peut-être arriver à trouver quand même, dans un refuge, il y a toujours quelque chose à manger qui traîne dans un coin. Alors, on est revenu, on a réveillé les autres, qui là se sont réveillés, parce qu'on avait quand même passé déjà près de trois quarts d'heure au moins, aller-retour. Et puis, on est parti par le même chemin qu'on avait pris avec Gilbert. On traverse la route et on va en direction de ce refuge. Évidemment, le refuge était fermé de toutes parts. Enfin, on a fracassé, en tirant un peu fort, le verrou a lâché une fenêtre et on a pu rentrer. On est rentré là-dedans. Et puis, on a commencé à fouiller, on va se retrouver quelque chose à manger. Et il y avait des assiettes, il y avait des verres, il y avait beaucoup de choses, mais il n'y avait surtout rien du tout à manger. Et puis alors on continuait à fouiller quand même, on est peut-être bien resté quand même près de 20 minutes à l'intérieur. Quand subitement on a entendu un moteur. On a entendu un moteur et Roger Scholz a poussé un volet, il l'a regardé. Et il s'y met à hurler, les Allemands. C'était un sidecar, une moto sidecar allemand. Ils étaient trois dessus. Et on les regardait passer doucement. Et quand ils sont arrivés à la hauteur du refuge, la moto s'est arrêtée. Ils sont descendus tous les trois. Il y en avait deux avec une mitraillette, avec des mitraillettes, et un avec un pistolet. Et ils se dirigeaient vers le refuge où nous étions, je vous dis, distant d'environ 300 mètres de la route. Alors que faire? Que faire? Nous avions, c'était fini, on savait que c'était foutu. Il y avait une petite colline derrière le refuge, à grimper, il y avait environ 600 à 700 mètres à courir avant de trouver une forêt. Dans la forêt, peut-être aurions-nous trouvé refuge, mais de toute façon, l'alerte était donnée, c'était fini. C'est ce qu'on a quand même essayé de faire. On a commencé à sortir, et quand on est de dos, vous voyez, c'est-à-dire qu'on était derrière le refuge, les Allemands ne nous voyaient pas. Et on a dit, bon, ben, à trois, on part, mais en éventail, très éparpillé, vous voyez. Et puis, 1, 2, 3, alors là, la frousse nous paralysait, hein, je vous assure, ça nous paralysait. On est parti, 1, 2, 3, et bon, on est parti comme une volée de moineaux, et en direction de la, de la forêt, mais il fallait monter, et ça, c'est pas que ça montait énormément, mais enfin, ça montait quand même, et on s'essouffle en montant, surtout quand on a la peur, hein, au derrière, c'est le cas de dire. Presque aussitôt, il y a une rafale qui est partie, bon, personne n'a été touché, on a entendu quelques balles siffler, et puis une deuxième rafale, et puis là, bon, ben, c'était fini, on a pris peur, et... Je sais pas d'ailleurs s'ils auraient pu nous toucher, je sais pas. On a levé les mains, et puis il n'y a plus qu'une chose à faire, se rendre. On savait ce qui nous guettait. On savait que c'était fini. Et dans des conditions pareilles, arrêté par les Allemands, c'était plus la rigolade de ma rigolade avec Verdier, l'arrestation en garde d'Argelès-Gazost-là, on savait ce qui nous attendait. Et puis, bon, on a levé les mains, les Allemands sont arrivés, ils ont commencé à nous fouiller. Et puis, ils nous ont amenés au bord de la route. Il y en a deux qui sont restés, et avec la moto, ils ont commencé à en prendre deux. Il y en a un qui est monté à deux, un Allemand qui est monté sur la moto, et puis deux dans le sidecar. Non, il y en a un Allemand qui est resté avec nous. Et puis, je ne me souviens pas qui c'est qui est parti le premier, je crois que c'est Robert, oui, et Henri qui sont partis le premier dans le sidecar. Et puis, un Allemand sur le Tansad, et un Allemand qui conduisait, et ils sont partis. Puis 20 minutes après, 25 minutes après, la moto est remontée, et il a pris deux autres, dont moi, et on est redescendu jusqu'à Arreau. Et après, il y a eu le troisième voyage, qui après, je ne me souviens plus, là, c'est assez confus, en ce qui me concerne, moi, je tremblais tous mes membres, je me suis foutu, c'est fini. Après, toutes les souffrances qu'on avait eues, je me disais, bon, moi, c'est fini, quoi. Et là, nous sommes arrivés à la commandanture de Arreau, et puis là, on nous a mis dans une pièce. Personne ne nous a adressé la parole, rien. Puis à un certain moment, il y a quand même un officier qui est arrivé, c'était un Hauptmann qui parlait un peu français. Ou il parlait même pas mal le français. Alors, on avait convenu, on avait convenu qu'on voulait travailler à l'usine électrique de Louderviel. C'est une histoire ridicule, ça ne tenait pas debout, mais enfin, on avait, en disant, en s'ancrant là-dessus, peut-être bien qu'on arrivera à convaincre qu'on ne voulait pas partir en Espagne. Et bon, alors ils interrogeaient, même pas les uns après les autres, tous ensemble, où est-ce que vous alliez, tout ça. Bon, on voulait travailler à l'usine électrique de Louderviel, parce qu'à Bordeaux on mange mal, alors on voulait venir dans les Pyrénées, il fallait trouver du travail, alors on est venu d'abord pour voir, on n'avait pas de bagages, vous voyez, tout ressortait en même temps, on n'avait pas de bagages, parce qu'on était juste venu voir, et puis ensuite si on avait été embauché, ben alors. On aurait ramené nos bagages, en fait, tout un baratin qui était stupide, idiot, crétin, il fallait prendre les Allemands pour des crétins, pour qu'ils nous croient. Bon, en définitive, ils ne sont pas cru. Et puis, ils nous ont laissé dans une pièce, on n'a pas eu à manger, bien sûr, on n'a pas eu droit à ça, mais ils nous avaient autorisé à ramasser les mégots dans le cendrier, en disant « ça vous fera crever ». Alors, on ramassait les mégots, et comme on avait du papier à cigarette, on roulait les cigarettes avec les mégots des Allemands. Et puis, en fin d'après-midi, il y a deux soldats allemands, armés uniquement de fusils, qui nous ont embarqués, et on est parti, on a pris le train, et on était ramenés à Tarbes. Encore une fois, je me retrouvais à Tarbes. Et nous sommes arrivés tard le soir à l'hôtel Famigli, qui était l'hôtel de la Gestapo de Tarbes. Et là, c'est l'histoire que je vous ai racontée, nous sommes arrivés, les bureaux étaient déjà fermés, il n'y avait plus qu'un garde là, c'était la tombée de nuit, alors oui, nous étions ça devait être en début juillet, ça devait être début juillet, on y a dû mettre. Notre périple avait dû durer déjà 8 jours, 7-8 jours, à peu près, ou 6 jours, peut-être, j'en sais rien. Enfin, c'était fin juin, début juillet. Non, c'était fin juin, oui. Donc les jours sont très très longs, et c'était à la tombée de nuit. Les soldats nous font monter, et là, il y avait un immense bureau, là, très grand, une table, et on était alignés devant, et arrive un Allemand qui ne parlait pas un mot de français. Et il était vêtu avec un espèce de pyjama en soie noire. Et puis, une chose curieuse, il y avait ses jambes qui avaient l'air de flageoler. C'est peut-être un infirme, vous voyez, qui était passé à la Gestapo, mais qui ne pouvait pas être, apte pour monter au front de Russie, sans doute. Ou alors, au contraire, c'est peut-être un gars qui avait été blessé là-bas, j'en sais rien. Et alors, le gars, il commence à nous dévisager, et il regarde nos noms, parce que à la fête de gendarmerie, à la commandanture de Haro, on avait fait une liste quand même, ils avaient fait une liste de nos noms, ainsi de suite. Alors, il commence à demander qu'on pose sur la table tout ce qu'on avait. Alors, c'était les bagues, c'était les montres, c'était tout ce qu'on avait, il fallait tout poser dessus, quoi, et en hurlant, tout ça. Et puis, il regarde les noms, et il dit « Sprechen Sie Deutsch ?» Et évidemment, personne ne répond, c'est pas mes faibles connaissances en allemand, d'ailleurs, mes copains baragouinaient à peu près comme moi. Personne ne répond. Et alors, il regarde la liste de noms, et puis il dit « Scholz !» Alors, Scholz, il dit « Oui ». Il dit « Sprechen Sie Deutsch ?» Et Scholz fait un mouvement négatif de la tête, bon, il dit rien. Alors l'Allemand s'impatiente, tourne, vire, et puis il passe devant nous en rang, nous étions en rang, et j'étais le troisième à peu près. Évidemment, comme à la tombée de nuit, il n'avait pas pu remarquer. Quand il arrive à ma hauteur, évidemment, je devais paraître très très jeune. Ça lui paraît être surprenant. Et il dit, c'est comme ça, « Wie viel hat ?» Et ça m'est venu spontanément, je lui ai dit « Fünfzehn Jahre ». C'est pas que j'ai regretté de l'avoir dit, mais ça m'est venu parce que ça, j'avais compris. Il était effaré, il est resté un moment hébété, et il est parti une gifle qui m'a envoyé bouler contre la table. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'étais jeune, ou si c'est parce que, ayant posé la question si l'un de nous parlait allemand, et que personne n'avait répondu, et que là, je m'étais fait prendre à parler allemand. Cela n'a pas eu de suite, d'ailleurs. Et puis, nous avons été emmenés, aussitôt après, en cellule, à la caserne de... C'était une caserne française, une caserne des dragons, mais qui était occupée par l'armée allemande, bien sûr. Et on, il y avait des cellules, là, et on a été mis tous les cinq dans la même cellule pour la première soirée. Alors, il y avait deux lits, et à cinq, il fallait qu'on dorme la taille, toujours sans manger, bien sûr. Et puis voilà, nous étions arrêtés. Alors, on a arrêté notre machin en disant, voilà, on s'en tient strictement à l'histoire de Luderviel, travaillé à l'usine électrique de Luderviel. Et on a réussi à dormir quand même, plus ou moins bien, qu'un souvenir assez lointain de ça. Ce que je me souviens, c'est que le matin, on commençait vraiment à avoir faim, parce que ça faisait 24 heures qu'on n'avait pas mangé. Alors, au petit matin, on a entendu que dans la cour de la prison, ils étaient en train d'apporter, on entendait les bouteillons, vous voyez, ils apportaient le café. Et alors, au moment où ils étaient en train de poser le café sur les tables, j'ai entendu un hurlement dans la cour de la prison. Et je me suis aperçu que c'était, ça s'adressait à moi. Il disait « Boutir, Boutir !» Alors, il ouvre une porte, il y a un gars qui ouvre une porte, et puis il dit « Boutir !» Alors, j'ai compris que c'était Boutier, c'était moi. Et c'était par ordre alphabétique, je m'appelais Boutier, j'étais le premier. Et j'étais embarqué dans une traction, là, avec un SS, là, c'est... J'ai été embarqué et je suis parti à mon premier interrogatoire. Et puis, ma foi, ben, je suis arrivé, il y avait un interprète en civil qui m'a posé la question, où vouliez-vous aller, que vouliez-vous faire, quels étaient vos passeurs. Ah oui, parce que faut que je vous dise quand même, c'est qu'on a, on avait... Roger Bazerque nous avait quand même donné le nom de notre passeur. À Germes, nous devions trouver un passeur du nom de Estinès Ménic. Mais ça, bon, mais ça, j'y pensais, hein, le nom de votre passeur, je dis non, on n'a pas de passeur, vous voulez travailler à l'usine électrique de Louderville. Bon, alors, je ne veux pas dire que nous avons été, nous n'avons pas été passés à faire, je n'ai pas été passé à la baignoire, mes copains non plus. On n'a pas subi de torture, si vous voulez, mais les coups de pied et les claques, eh ben on en a reçu quelques-unes. Gilbert Sébastien a eu le front d'un coup de botte, le front complètement étoilé, enfin en forme de fer à cheval, vous voyez. Bon, je me suis retrouvé plus souvent par terre qu'à mon tour, et des coups de pied dans les côtes, et des machins. Mais enfin, on n'est pas passé à la torture, ni à l'électricité, ni rien du tout. Ils voulaient nous faire avouer qu'on voulait partir en Espagne. Bon, et quand je suis rentré, j'avais bien ma claque, hein, j'avais faim, et puis quand même, tous ces coups un peu partout, je suis rentré, et j'ai qu'une chose à dire avant qu'il appelle, je ne me souviens pas qui c'était, mais c'est Monge qui a dû passer en second, oui. C'est Monge qui est passé en second. Entre mes dents, j'ai dit maintien. Et puis, Robert Monge est parti, et il a été interrogé, évidemment, et quand il est rentré, il a employé la même tactique, lui aussi, il avait des bosses et des bleus un peu partout, et il a dit « maintien entre ses dents très faiblement. Et après, c'est Sébastien qui est parti, et après Scholz, et puis après Fidalari, tout le monde, et chacun, quand on s'est tous retrouvés, il était déjà midi, mais personne n'avait rien dit, personne n'avait parlé, personne n'avait rien dit. Alors tout de suite, ils nous ont fait le truc, hein. Votre copain a avoué, ah ben ça c'est tout de suite seulement, ça marche une fois, ça, mais pas deux, alors ça c'est pas possible ça. Et là, ils pouvaient nous raconter, ils ont dit, c'est pas vrai, il n'a pas pu vous dire ça, c'est pas vrai, ou alors c'est parce qu'il a eu peur, mais c'est pas vrai, on voulait travailler à l'usine électrique de Louderville. C'était stupide comme système de défense, mais on se tenait là, il n'y avait rien à faire. Et puis, dans l'après-midi, on a eu quand même à manger à midi. À midi, on a eu quand même à manger. Alors, on avait très mal, tout ce... Gilbert, quand il était rentré, je vous dis, il avait le front... il avait reçu un coup de bord sur le front, qui avait mis comme un fer à cheval, la tout rouge. Et alors, dans l'après-midi, on nous a sortis de cellule. On nous faisait faire un tour d'abord dans la cour. Et puis, un moment après, on nous a dit que. Enfin, on nous a fait comprendre qu'il fallait aller nettoyer des voitures. Alors, il y avait des voitures, et là, il fallait nettoyer. On a rencontré des prisonniers russes, d'ailleurs, qui étaient aussi en train de nettoyer les voitures. Et l'un nous avait donné une cigarette, un de ces prisonniers russes. Et après, on est rentré en cellule, puis on a attendu. Alors le soir.